Casino. Jouez au jackpot, jetable en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance et jouez la roulette au blackjack et à bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs 18 ans et plus, ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable.
C'est pas pour rien qu'Abba, c'est le choix du consommateur depuis plusieurs années. Nos estimations sont gratuites, nos interventions sont rapides. Chez Abba, on vend du résultat. Il y a plus de 1000 avis en ligne qui prouvent que notre solution, ben, elle fonctionne. Abbaextermination.ca ou appelez-nous maintenant au 666-6667. Abba, une solution définitive.
La rentrée s'en vient. Des listes de fournitures scolaires sans fin. Ne pas savoir ce qu'est un intercalaire à onglet. Mais tout réglé en visitant son marchand Amster.
TD, Groupe Océan et Boulevard 102-1.
Hey, juste avant d'aller rejoindre notre invité 17h01, Félix Auger, Ali Hassim, c'est terminé,
ouais,
Véro.
Ça va être une déception. Devait jouer ce soir à Montréal sur le court central à l'Omnium Banque Nationale. Ça a été annoncé par l'Omnium. Il s'est blessé au dos suite à un entraînement. Puis les attentes étaient quand même assez élevées.
Ouais.
À Wimbledon, en quart de finale, avait perdu contre Djokovic dans le match le plus long des quarts de finale de l'histoire de Wimbledon.
On va rester dans le sport. Dimanche soir, il a fait son grand retour à la joie des amateurs de lutte, à la grandeur de la province. Mais on pourrait même dire à la grandeur de la planète, de la façon qu'il a été accueilli comme un roi, comme un enfant prodige du stade des Vikings du Minnesota, en plein cœur de Minneapolis. Ça faisait 17 mois qu'il était au rancard. On a même pensé à un moment donné que sa carrière de lutteur professionnel était terminé. On a la chance d'aller jaser avec Kevin Owens de la WWE. Salut Kevin, comment ça va?
Salut, ça va bien vous autres?
Ça va très très bien. Kevin, il y a 17 mois, peut-être commencer par là. Qu'est-ce qui t'est arrivé?
Ben, ça a commencé un peu avant 17 mois. En fait, au mois de janvier de 2025, j'ai commencé à avoir de la misère avec mes jambes pendant les combats. Puis la meilleure façon que je peux décrire ça, c'est que en plein milieu du combat, à un moment donné, pour une raison quelconque, je perdais toute force dans mes jambes, okay, complètement. C'est vraiment difficile à exprimer, trouver les mots appropriés pour décrire le sentiment en tant que tel. Là, j'étais capable de marcher, de continuer de lutter, mais mes jambes ne répondaient pas de façon adéquate à ce que je leur demandais de faire, dans le fond. Puis ça a pris un bon bout avant qu'on identifie le problème, en fait. On pensait que c'était peut-être d'un problème de nerfs, des affaires de même, puis finalement... c'était au mois de janvier que ça a commencé. Au mois de mars, on a fait une résonance magnétique, puis on a vu que j'avais un très sérieux problème au cou. Ma colonne vertébrale était impactée pas mal, puis c'est là qu'ils m'ont dit qu'il fallait que j'arrête immédiatement, puis que j'aille me faire opérer. Là.
Est-ce que c'était le même genre de problème qui a fait en sorte que des gars comme Edge et Daniel Bryan ont arrêté leur carrière pendant quelques années, ou c'est pas nécessairement le même type de blessure?
Ben, c'est le même type de blessure, mais je pense que c'est ça qui a rendu encore plus ardu de trouver ce qui se passait avec moi. C'est que mes symptômes n'étaient pas comme les symptômes qu'eux avaient.
OK.
Quand il y avait cette blessure-là. Moi, j'avais des symptômes complètement différents. Puis, mais oui, en effet, c'est très similaire à plusieurs des lutteurs qui ont passé devant moi. Là. Il y en a au moins une douzaine, honnêtement, là, qui ont eu le même type d'opération depuis le début des années 2000. Fait que oui, c'est vraiment similaire, ouais.
Quand tu te retrouves à avoir un diagnostic comme celui-là, je comprends que c'est commun dans ton champ de travail, si on veut, mais est-ce qu'il y a des inquiétudes qui viennent avec, pas juste pour ta carrière, mais pour ta vie en général?
Ouais, ben c'est ça, c'est le problème, en fait, c'est que moi, c'était tellement... ma colonne était tellement impactée que... Moi, la première réaction que j'ai eue quand ils m'ont dit qu'il faut que tu arrêtes de lutter, c'était de demander « OK, est-ce qu'on peut au moins faire quelque chose dans le ring pour expliquer mon absence, tu sais?
Mm-hmm. »
Qu'un autre lutteur me donne une bonne volée, quelque chose. Puis ils m'ont dit « Non, honnêtement, il faut que tu arrêtes de lutter immédiatement. Si tu te fais frapper d'une certaine façon puis ta tête bouge de la mauvaise façon, ils m'ont dit tu vas mourir dans le ring. »
Rien de moins, là. Tabarnouche.
Ouais, fait que, on n'a pas vraiment eu le choix, mais fait que c'est ça. C'était... Puis par après, tu sais, c'est une fois que l'opération a lieu, c'est vraiment pas une garantie. Dans n'importe quel cas, qu'on va retourner dans le ring ou peu importe. Tu sais, dans mon cas, il y avait une grosse peur que j'ai encore des séquelles, puis que même avec l'opération qui sont capables de rétablir ma colonne vertébrale, tu sais, pas à 100%, évidemment, là, parce que le dommage a vraiment été fait, mais moi, c'était tellement endommagé qu'il y avait une grosse crainte que j'aie des séquelles quand même s'il y avait comme réglé ça, tu sais.
Après l'opération, est-ce que c'est arrivé à un moment donné, Kevin, qui t'ont dit « Écoute, commence à envisager très sérieusement le fait que ta carrière est terminée? »
Ils m'ont pas dit ça en tant que tel, mais on savait, même avant l'opération, que ça, c'était une possibilité parce que, tu sais, ça dépend de comment les os vont guérir, la fusion va se faire avec les morceaux de métal qu'ils mettent dans la colonne pour remplacer ce qu'ils ont enlevé puis tout. Fait que, tu sais, tout le monde guérit différemment. On ne sait jamais, puis c'est justement ça qui m'est arrivé. Moi, tu sais, en général, 6 mois environ, tu peux retourner dans le ring tranquillement, pas vite, recommencer à t'entraîner. Moi, ça a pris 1 an au complet avant qu'ils me laissent y retourner parce qu'ils ne voyaient pas le type de guérison qu'ils avaient besoin de voir. Puis même, je te dirais, quand ils m'ont laissé rentrer dans le ring, le 18 juillet, j'ai eu le feu vert de recommencer à rentrer dans le ring pour voir comment je me sentais. Puis même là, ils m'ont dit qu'ils le faisaient sous toute réserve puis qu'il fallait que je sois vraiment honnête avec eux puis avec moi-même parce que il était correct de me laisser réessayer, mais que encore une fois, même de la façon que c'était guéri, c'est pas guéri comme les autres normalement, tu sais. Fait que c'est ça. Moi, pour une raison quelconque, la façon que mon cou était, même avant l'opération, la façon que ma colonne est faite, mes os, les affaires de même, c'est juste différent de tout le monde qui a passé devant moi, avant moi avec ça. Fait que ça a été un processus comme frustrant puis un peu... C'est beaucoup de choses qu'on ne s'attendait pas à rencontrer en cours de chemin. Genre.
Comment tu t'es senti la première fois que tu es remonté sur un ring? Qu'est-ce que tu as fait? Avec qui tu étais?
Ben, en fait, quand ils m'ont dit, enfin, parce que moi, j'ai fait des scans. Mon premier scan était 3 mois après l'opération. Puis en général, ils attendent 6 mois. Mais moi, je voulais absolument le faire après 3 mois parce que dans ma tête, tu sais, il y a des années, je me suis fait opérer au genou, puis généralement, les autres, ça leur prend 9 mois à revenir de ça. Moi, ça m'a pris 3 mois. Fait que moi, dans ma tête, je suis comme, je guéris plus vite, mon cou va être réglé en 3 mois. C'était pas le cas du tout. On aurait essayé à 4 mois, c'était pas le cas. 6 mois, c'était pas le cas. 9 mois, c'était pas le cas. Fait que là, c'est là qu'on commençait à se dire, c'est peut-être que ça arrivera pas. Mais finalement, le 1er juillet, j'ai fait un scan, puis ils m'ont appelé quelques jours plus tard. J'étais en vacances en France avec ma famille. Puis ils m'ont dit, on a enfin vu assez de guérison qu'on est prêt à te laisser rentrer dans le ring. Puis moi, comme, je sais pas, pour ma propre santé mentale, je sais pas, je voulais absolument rentrer dans le ring avant. Tu sais, je voulais pas dépasser 12 mois. Tu sais, je sais pas pourquoi, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait que je fasse pour moi.
C'était une barrière psychologique, là.
C'est ça, j'ai coupé court mes vacances, je suis revenu à Orlando pour pouvoir être dans le ring le 18 juillet, 1 an exactement après l'opération. Fait que puis c'était un samedi, fait que le centre de performance était fermé. Je leur ai fait ouvrir le centre de performance juste pour que je puisse rentrer dans le ring. Puis il y a un des entraîneurs du centre de performance de l'équipe médicale qui est venu avec moi. Puis c'est ça, c'est là que ça a recommencé.
Raconte-nous ta journée de dimanche. J'imagine que la WWE te fait encore drôlement confiance. On te fait rentrer dans un match avec une des plus grosses foules de l'année au SummerSlam et c'est pour devenir l'aspirant numéro 1 à la grosse ceinture et t'as gagné ce match-là. Raconte-nous comment ça s'est passé ta journée de dimanche.
Mais tout s'est vraiment passé vite. Là. Entre le temps que je suis rentré dans le ring le 18 juillet puis le temps qu'ils m'ont dit « Bon, ben on va te ramener à SummerSlam », il n'y a pas eu énormément de temps. Fait que j'ai comme pas eu le temps non plus de digérer le fait que ça faisait 17 mois que j'avais pas lutté. Puis quand je suis retourné dans cet environnement-là, honnêtement, c'était comme si j'étais jamais parti. T'sais, toutes mes amis... Puis moi, je suis bien ami avec beaucoup de mes confrères et consoeurs avec qui je lutte, mais... Mes meilleures relations dans la compagnie, c'est avec les gens qui sont derrière la scène, en fait. Les gars qui montent le stage, tous les scripteurs, des trucs comme ça. Fait que de retrouver toute cette gang-là que j'avais pas vu depuis 1 an et demi, ça faisait du bien. Puis c'était comme si j'étais jamais parti, honnêtement. Puis une fois que j'ai rentré dans le ring, quand ma musique est partie, je me sentais vraiment comme... Je m'en étais ennuyé énormément, mais en même temps, c'était comme si j'étais jamais parti. Je suis retombé dans le... dans le même mode que j'avais avant de partir. Une fois que je rentre dans le ring, puis tout, je me sentais extrêmement confortable.
T'es un gars qui est assez casse-cou. T'es un gars qui rentre dedans sur le ring, qui regarde pas, mettons, le niveau de risque. T'es assez kamikaze à tes heures. Est-ce que tu dois changer ta façon de lutter à l'âge où t'es rendu versus les problèmes que t'as eu dans les 17 derniers mois où tu reviens exactement comme si t'étais pas parti? Autant dans ta tête qu'au niveau physique, là, mettons.
Ben, je me suis fait dire à plusieurs reprises qu'il allait falloir que je change. Moi, dimanche, j'ai décidé que non, je vais faire les affaires comme j'ai fait toujours parce que je peux pas revenir à moitié, tu sais. J'aimerais pas ça de toute façon. Mm-hmm. Même moi, j'aurais pas de fun. Je pense pas que le monde veuille me voir pas à même si c'est pas à moitié, une version modifiée, tu sais, une version plus safe, plus sécuritaire, peu importe. C'est pas comme ça que j'ai fait mon nom du tout, puis j'ai pas l'intention de le faire non plus. T'sais, on est tous conscients de les risques et comment réduire ces risques-là pour le type de blessure que j'ai eu. Donc, je courrais pas après non plus. Mais tu sais, comme les gens ont vu dimanche, ceux qui ont regardé, j'ai pas modifié rien. Là. J'ai fait les mêmes manœuvres que je faisais avant de partir, puis tout a bien été, donc... Moi, j'ai pas l'intention vraiment de modifier ça. Là. Je vais faire, là, comme j'ai dit là, après le gala, dans une entrevue, j'ai dit je vais tout donner à toutes les fois que je suis là, puis si ça dure deux autres années, tant mieux. Si ça dure plus longtemps, tant mieux, mais je ferai pas les choses à moitié.
Avant que tu montes sur scène, 20 secondes avant que ta toune parte, la chienne t'as-tu pogné? Hey, mettons que le monde m'a oublié, mettons que ça pop pas dans la foule, mettons que je suis pas capable de livrer. Comment tu te sentais? Les jambes devaient te shaker un peu.
Non, honnêtement, comme je t'ai dit, je me sentais... La veille, en regardant la première soirée de SummerSlam, ouais. J'avais comme un peu un... C'est là que je te dirais que j'étais nerveux, puis ça fait très, très long. Honnêtement, là, depuis le temps où on était dans les mêmes shows à Québec, au début des années 2000, là, ça doit être là la dernière fois que j'ai été nerveux avant un match de lutte, tu sais. Mais samedi soir, je regardais le show, puis je me disais... C'était pas une question de est-ce que les gens vont se rappeler de moi, peu importe. C'était plus une question de... même si j'ai. Tu sais, oui, j'avais été dans le ring au centre de performance et tout, mais il y a une grosse différence entre être dans le ring avec un de tes chums pour t'entraîner, puis être dans le ring avec trois autres gars qui sont les top du top, puis devant, tu sais, 45 000 personnes. Fait que j'étais comme un peu nerveux, mais dimanche matin, quand je me suis réveillé, je me sentais, comme je te dis, là, j'étais revenu comme j'étais avant. C'était la même routine avant un show, puis. Je me sentais vraiment à ma place. Puis 20 secondes avant que ma musique parte, c'était pas de la nervosité, c'était vraiment de la trépidation. Là, j'avais hâte que ça passe, puis j'avais hâte d'être dans le ring.
Kevin, t'as une épouse à tes côtés depuis très longtemps. T'as deux beaux grands-enfants. Est-ce que c'est des gens qui t'ont dit à un moment donné dans le processus, écoute, t'en as peut-être assez fait, c'est peut-être le temps de faire autre chose, c'est peut-être le temps de rester à la maison davantage. Est-ce que c'est des choses qui t'ont tiraillé pendant cette période de rétablissement-là?
Non, mais tu sais, ma femme me disait toujours que si c'était la fin, que ça allait être correct, on allait s'arranger, on allait passer à travers, puis tu sais, on allait être capable de dealer avec le nouveau normal de notre vie.
Ouais.
Par contre, en même temps, pendant que j'étais blessé, je me trouvais, tu sais, je me cherchais des affaires à faire, là, parce que de passer à être constamment sur la route, à ne plus jamais être sur la route, puis en plus, j'avais pas l'échappatoire mental de penser à la lutte, puis ce que j'allais faire dans mes combats, des trucs comme ça. Je me suis mis à collectionner les passe-temps, là. Je suis rendu avec. J'avais.
Le tricot, avant de faire... non, le strapbooking. Ouais,
ben, je pense que ça aurait fait l'affaire à ma femme, mais moi, avant de me faire opérer, j'avais aucun serpent. Maintenant, j'en ai cinq.
Quoi? Mais voyons.
J'ai deux autres reptiles. J'avais zéro bicycle à gaz, là, j'en ai deux. Fait que, les passe-temps que j'ai décidé d'adopter sont. Mettons que ça. Il y a plusieurs façons de dealer avec des choses. Moi, j'ai décidé que si je peux pas risquer ma vie dans le ring, je vais risquer ma vie avec des serpents et des bicycles à gaz, ça a l'air. Mais, fait que, tu sais, c'était le temps que j'y retourne. Puis c'est sûr que, tu sais, si on parlait de la possibilité que ça puisse pas se passer, mais j'avais le support de tout le monde pour essayer. Puis de l'autre côté, il y avait ma fille qui me disait hey, quand est-ce que tu vas retourner dans le ring? Quand est-ce que tu recommences à lutter? Puis. Fait que c'est ça. J'avais les deux extrêmes d'un bord puis de l'autre.
Est-ce que tu serais resté dans l'univers de la lutte, même pas en tant que lutteur, parce qu'on le sait, T'es excellent au micro. Moi, je capote à chaque fois que je t'entends improviser puis parler en anglais. T'as dit que parmi tes meilleurs amis, il y a du monde en arrière-scène, dans les scripteurs et ainsi de suite. C'est-tu un domaine dans lequel t'aurais voulu continuer de fonctionner même en n'étant pas lutteur?
Ouais, c'est sûr que je me serais ramassé là d'une façon quelconque. Puis même, tu sais, c'est... J'avais signé un nouveau contrat avec le WWE de 5 ans, un mois avant ma blessure. Donc, je suis encore sous contrat avec eux pour plusieurs années. Mm. Fait que c'est sûr qu'ils m'auraient trouvé quelque chose à faire. ils m'auraient pas payé à rien faire pendant 5 ans, ça c'est garanti. Mais même si ce serait pas avec la WWE, je me vois vraiment jamais... Tu sais, je me vois pas... Je vois pas une période dans ma vie où je serais pas dans le monde de la lutte d'une certaine façon. Mm-hmm. Je peux pas m'imaginer... C'est tout ce que je connais depuis que j'ai 11 ans. Donc, j'ai vraiment de la misère à imaginer un monde où je fais pas ça d'une certaine façon. Là.
Pendant ta période de réhabilitation, c'est ta passion première. Puis ça, je pense que tout le monde le comprend bien. Mais quand tu peux pas en faire, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes-tu la lutte à toutes les semaines? Ou ça te met en sacrifice puis que t'as comme décidé de couper un peu pour pas te faire trop mal? Comment t'as vécu avec ta passion en pouvant pas la faire?
Ben, je suivais ça. Je te dirais que je suivais mes amis. Tu sais, ceux avec qui je suis proche. Comme, tu sais, je regardais, mettons, Sami Zayn, Finn Balor, mm-hmm. Becky Lynch. Puis je regardais mes chums dans l'autre compagnie également.
Oui.
Mais je suivais pas tous les shows au complet parce que ça, en effet, tu sais, ça peut venir un peu dur. Puis au début, j'allais au gala en personne pour être là, puis tu sais, comme un peu aider backstage, des trucs comme ça, puis voir mes amis. Mais d'être là en personne, c'était vraiment plus dur que je m'attendais. Donc, j'ai arrêté de faire ça, mais oui, quand je suivais ça quand même, mais je portais beaucoup plus attention à ce que mes amis faisaient que d'autres choses. J'étais pas, je regardais pas les shows là, à toutes les semaines religieusement. Là.
Est-ce qu'on va vivre ton dimanche de SummerSlam dans la série Unreal, qui est maintenant sur Netflix, qui nous montre comment ça se passe en coulisses? T'sais, on a vu Liv Morgan revenir d'une blessure dans la saison 3, le parcours qu'elle a fait pour revenir et ainsi de suite. Est-ce qu'on va te voir dans cette série-là éventuellement?
J'imagine, ils nous disent pas vraiment, tu sais, comme, là, moi, dimanche, j'avais une caméra d'en face à chaque seconde, là, mais ils me disent pas vraiment pourquoi qu'ils prennent ces vidéos-là, mais j'imagine que, ouais, il y a une certaine façon, tu sais, comme, il va devoir sûrement avoir un épisode dans la 4e saison qui va parler de ça, sinon, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec le 8h30 de film qui ont pris de moi. Là,
vendredi soir, tu vas être à SmackDown?
Ouais.
Vendredi soir, il y en a plusieurs qui pensent que tu as un rendez-vous avec un certain CM Punk, une personnalité polarisante dans le monde de la lutte, autant auprès des partisans qu'auprès des lutteurs. Puis il y a des gens qui attendent cette confrontation-là, autant physique que verbale, avec énormément d'impatience. Parle-nous de CM Punk.
Honnêtement, j'ai vraiment rien à dire parce que je pense pas à lui, je le regarde pas, je l'écoute pas, il a aucun effet dans ma vie. Donc, j'aimerais bien ça de donner mon opinion sur lui, mais comme je pense que tu sais dans quel... Tu dis qu'il est polarisant, je pense que tu sais sur quel pôle moi je me tiens.
Oui.
Fait que moi, du monde de même, j'en ai pas besoin dans ma vie. Fait que avant qu'on soit dans le ring ensemble, à moins qu'on doive devoir être dans le ring ensemble... Moi, j'évite ça. Donc, vendredi et les prochaines semaines vont définitivement être intéressantes pour les fans qui vont regarder ça.
Parce que là, je vais y aller avec des mathématiques de base. T'es l'aspirant numéro un, c'est le exact. Champion. Là. Vous êtes comme sur un collision course qui va être difficile à contourner. Là.
Ouais, d'après moi, j'aurais pas le choix de l'endurer un peu pendant un petit bout, là, comme c'est là.
Comment est-ce qu'on se prépare à travailler avec quelqu'un avec qui on s'entend moins, que ce soit CM Punk ou quelqu'un d'autre, mettons, là? Ça doit être le fun de travailler avec ses amis, avec les gens avec qui on a des affinités, mais on met quand même notre sécurité dans les mains de quelqu'un sur un ring, là. Tu sais, il y a des gens qui s'aimaient pas, les Shawn Michaels, les Bret Hart et ainsi de suite. Ça fait maintenant partie du mythe, mais ils étaient capables de travailler ensemble sur le ring. Comment les lutteurs font quand ils s'aiment pas à face pour réussir à monter un match ensemble?
Ben, je t'en reparlerai après qu'on l'ait fait, parce que je sais pas la réponse encore.
C'est là que ça se passe.
Ouais, c'est ça. Okay. On va voir. Je reviendrai pour une entrevue plus tard, puis on en reparlera.
Y a-tu des crottes sur le cœur avec CM Punk qui datent d'une autre époque ou...
Ben, je sais pas, on se parle pas. OK. on va le découvrir tous ensemble.
J'ai très, très hâte de voir. Hey, moi, j'ai eu la chair de poule dans mon salon avec mes gars quand on t'a vu revenir. C'est une surprise qui avait quand même été bien gardée. Je voyais du monde pleurer dans la foule. Il y a des gens qui ont été transportés emporté par l'émotion. Ça doit te dépasser un peu, tout ça.
Ouais, regarde, c'est vraiment spécial. Puis c'est dur de mettre en mots le type d'émotion et de sentiment qu'on sent dans une situation comme ça. Mais de savoir aussi que mes parents me regardaient à la maison puis ma famille était là en personne au stade. Après le dernier 17 mois, mes parents étaient là chez nous quand j'ai reçu l'appel de tu peux pas lutter, il faut que tu arrêtes, il faut peut-être te faire opérer. Puis là, tout est tellement devenu incertain par après. Puis ça a continué d'être incertain très longtemps. Fait que de pouvoir revenir, comme de remettre les pendules un peu à l'heure puis de recommencer avec un coup quasiment neuf. Peut-être que mon chirurgien mettrait ça d'une autre façon, là, mais de pouvoir recommencer de façon positive, puis de savoir que tout le monde était là pour le regarder, puis de vivre ça tout ensemble. En plus de vivre ça avec les fans qui étaient vraiment heureux de me revoir, c'est très spécial, c'est sûr.
Je sais que tu es un gars d'objectif. En terminant, Kevin, qu'est-ce qui te reste à réaliser à la WWE ou ailleurs dans le monde de la lutte professionnelle? Je veux dire, tu as main eventé WrestleMania, tu as fait sortir Stone Cold Steve Austin de sa retraite, tu as connu des beaux moments avec un de tes meilleurs amis, sinon ton meilleur ami, Sami Zayn. Vous êtes monté au top du top. C'est quoi qui te reste à accomplir à la WWE?
Ben, c'est ça l'affaire, tu sais. Je regarde à la carrière que j'ai eue, puis j'ai déjà accompli beaucoup de choses que même moi, j'aurais jamais pensé accomplir. Si ma carrière avait été terminée, je l'aurais même bien fini avec un match contre Sami Zayn. Ça aurait été ça mon dernier combat, tu sais. Fait que c'est ce que je me disais pendant les derniers 17 mois, que si c'était fini, j'avais quand même vécu une carrière incroyable. Mais en même temps, je me disais qu'il y a eu des moments et des périodes où je prenais pas le temps d'apprécier la chance que j'avais puis les moments que je vivais. Donc là, vraiment, honnêtement, ce qui me reste à accomplir, c'est de m'assurer de vivre chaque moment qui va me rester dans le ring pleinement. Puis tu sais, les moments que j'ai avec mes amis, que ce soit dans le ring, en dehors du ring, tu sais, de m'accrocher à ces moments-là pour qu'ils puissent rester avec moi le plus longtemps possible. Puis c'est vraiment juste ça. Pour le restant de ma carrière, je veux juste m'assurer de tout vraiment, de profiter de vraiment tout ce que je peux profiter.
On devient philosophe en vieillissant. Hein?
Ben c'est oui, hey, ça se peut dessus.
Incroyable.
Ça doit être toutes les chroniques de Sonny Workload qui m'ont...
hey, on ramène les vieilles histoires. Des fois, j'ai de la misère à croire qu'on se croisait à tous les vendredis ici à Québec.
Ça fait longtemps en plus. Mais écoute... moi, honnêtement, tu m'impressionnes parce que t'as la même coupe de cheveux exactement.
Il n'a pas changé, hein? La barbe a changé de couleur, c'est la seule affaire.
On a blanchi. Ouais,
moi,
avec,
ça te console la mienne. Moi, j'en avais même pas de barbe, puis là, j'en ai une, puis elle est grise.
Hey, Kevin, c'est super le fun de te revoir à la télévision, de te revoir au top. On va évidemment écouter SmackDown avec beaucoup d'attention ce vendredi du côté de Netflix. Puis je seconde un peu ta réflexion. Que ça dure 6 mois, que ça dure 10 ans, profites-en le plus possible. Vous êtes en train de vivre quelque chose d'exceptionnel, puis porte ce rêve-là jusqu'au bout pour tous les amateurs de lutte du Québec.
C'est bon, je prends tes mots au cœur, puis je vais essayer ça, puis je remercie vraiment tout le monde de leur support puis de leurs bons mots depuis que je suis revenu. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup.
Hey, merci, Kevin.
Salut.
Notre ami Kevin Owens de la WWE, donc qui sera du côté de SmackDown à Netflix, c'est vendredi soir. Puis là, un petit peu d'inside baseball pour les demoiselles. Ça n'a pas été trop technique?
Non.
OK, j'ai bien fait ça?
Ouais.
Kevin Owens et CM Punk s'aiment pas du tout dans la vraie vie. Ouais,
à un moment donné, je me suis posé la question à savoir si c'était un rant qui est un peu prévu, parce que on le sait qu'il y a la lutte.
C'était pas du théâtre,
non? Non.
Moi, je pensais qu'il jouait un personnage dans la game.
Puis, quand on a commencé l'émission, tu me demandais c'est quoi que les amateurs de lutte aiment. Ils aiment ça quand ils ont l'impression de voir quelque chose de vrai. Et CM Punk et Kevin Owens, c'est connu que les gars s'aiment pas du tout.
Pas les personnages de lutteurs, là. Les individus.
C'est des histoires qui datent des circuits de lutte indépendants où... puis là, c'est du potinage, là, OK? C'est vraiment des sites de potins de lutte, puis ainsi de suite, où j'ai lu, entre autres, que CM Punk était très désagréable, très hautain avec Kevin Owens parce qu'il disait « T'as pas la shape pour être un lutteur, puis tu luttes en chandail, puis ainsi de suite, puis tout, puis tout. Puis il y a plein de choses comme ça là, qui se sont déroulées. Kevin Owens est très copain avec les Young Bucks de la AEW, qui ont eu mal à partir avec CM Punk aussi. Ça s'est battu d'un vestiaire, puis tout. C'est une grosse tête enflée.
Il a trippé sur CM Punk.
Ben, c'est parce que...
C'était incroyable. Mais tu sais, c'est quelqu'un, quand tu dis qu'il est polarisant, il est capable d'attirer beaucoup, beaucoup de lumière, mais il n'est pas capable de la gérer. Puis moi, ça m'a fait capoter. Quand il a quitté la lutte pour s'en aller en UFC, puis qu'il s'est rendu compte que finalement, c'est du sport pour vrai, j'ai trouvé ça hilarant.
C'est deux gars qui risquent de régler de vrais comptes en direct à la télévision avec un micro dans les mains. Et ça, les amateurs de lutte, on salive, là, parce que depuis que CM Punk est revenu à la WWE, il y a eu une interaction avec Kevin Owens à la télévision. Ça a duré 0,5 secondes, puis c'était voulu. CM Punk se promène dans le corridor, il croise Kevin, il dit « Sais-tu, il est où le bureau? » Il dit « Oui. » Il dit « Peux-tu montrer, il est où? » « Non. » Il a continué son chemin.
Mais voyons donc, c'était ça qui nous faisait un peu de théâtre en direct.
Ah non. Ça cute. J'ai l'impression qu'il garde ses munitions puis ce qu'il a à dire pour la télévision, mais c'est pas facile d'avoir Kevin en entrevue. Il y a bien des gens de la lutte ici qui me posent hey, comment vous avez fait pour réussir à parler à Kevin Owens? C'est mon arme secrète, c'est Audrey Pinchot. merci Audrey d'avoir réussi à te rendre à Kevin. La WWE est assez protectrice pour les entrevues habituellement.
Maintenant, on sait qu'il possède maintenant des serpents.
Ce que je trouve, oui, c'est spécial, ça.
C'est un maniaque d'animaux, hein. Il fait le tour des zoos en Amérique du Nord.
Mais oui, mais là, des serpents, c'est pas une gerbille, là.
Ben là, j'avais peur qu'il arrive avec une poche de serpent, là, comme Jake the Snake. Comme Jake the Snake Roberts.
Oui, il y a quelqu'un qui nous écrit, j'ai zéro intérêt pour la lutte, mais j'ai été captif de l'entrevue, fait que ça coche, là.
Ben, c'est parce que, tu sais, on se reconnaît. N'importe qui est passionné de quelque chose, puis qui se fait dire, ça se peut que tu le fasses plus.
Oui.
Tu sais.
Ça fisse.
Moi, la journée où, je sais pas, moi, mes cordes vocales pètent puis je peux plus faire de radio, faut que je refasse ma vie. Puis je trouve ça sain qu'il se soit trouvé des passions. Là. À un moment donné, il s'en est rendu compte, probablement. Faut que je bouge. Là. C'est là que tu commences à faire de la moto. Puis ben oui, sans ça, qu'est-ce que tu fais? Tu te morfonds chez vous puis tu déprimes. Là.
Parlant de passionnés qui ne peuvent plus faire ce qu'ils font dans la vie, je vous rappelle que Félix Auger-Aliassime a dû déclarer forfait pour son match de ce soir à l'Omnium Banque Nationale de Montréal. Puis pour lui, il est arrivé un bon moment. Il est classé 4e raquette mondiale la dernière fois qu'on l'a vu, c'est le mois dernier à Wimbledon, alors qu'il s'est rendu en quart de finale contre Novak Djokovic. Puis, Denis, t'étais pas là, mais j'étais captivée par le match. Ça a été le plus long match de l'histoire des quarts de finale de Wimbledon. Il s'est battu, ça avait pas de sens. Et lui, il a jamais réussi à passer la 4e ronde de l'Omnium. Fait qu'à Montréal, chez eux, quoi que ce soit. Fait que ce soir, c'était une soirée importante. Fait que blessure au dos qui est survenue pendant un entraînement en point de presse après l'annonce de l'Omnium Banque Nationale, il a dit que ce matin, il était persuadé qu'il allait être capable de jouer. Puis finalement, sur le court, il a commencé à s'échauffer vers 15 heures puis il n'arrivait pas à servir. Fait que pour lui, c'était impossible de jouer au niveau de la compétition que la compétition demandait.
Triste nouvelle, 17h29, vous êtes à Boulevard 102.1. C'est Gravel dans le retour.
L'histoire vous passionne? Partez à la découverte des projections spectaculaires de Cité Mémoire. Trois parcours ludiques vous attendent à Montréal, l'Assomption et à la Malbaie. Des expériences multimédia gratuites et inoubliables. Toute l'info sur citémémoire.com.
Les inscriptions du Collège Bart, c'est maintenant. Découvre nos programmes en graphisme, animation 3D, informatique, photographie, cinéma et droit, ainsi que nos nouveaux decks préuniversitaires en arts, lettres et communication, avec 5 profils créatifs. Plusieurs formations sont aussi offertes en ligne. Détails au bart.ca.
Plus le goût d'entendre?
Maman, on arrive-tu bientôt?
C'est le temps d'un arrêt pizza. Pour faire le plein de patience sur la route des vacances, il y a toujours Mike's.
Matelas Dauphin. Nous sommes l'un des plus grands fabricants de matelas au Québec. Notre force, fabriquer des matelas de qualité exceptionnelle à des prix imbattables. Nous les fabriquons, vendons et garantissons sans intermédiaire depuis 56 ans. Pendant le Blitz du fabricant, obtenez 50 % de rabais sur tous les formats de matelas silhouette ultra confortable, dont le double en spécial à 649 $. Livraison rapide et gratuite. Cette offre est beaucoup plus pendant le Blitz du fabricant Matelas Dauphin, une entreprise 100% québécoise.
Cet été, plongez dans les magazines Inspiration de La Presse Plus. Samedi, des maisons de Cap-Vert aux saveurs de la cuisine perse, découvrez des idées pour un mois d'août coloré. La Presse Plus, toute l'info 100% gratuite, disponible sur tablette et Mac.
Judith, cliente d'Antiroux Métropolitain depuis 2022. Mon grand-père y allait, mon père y va, même mon garagiste. À un moment donné, une fille s'est dit « ça doit bien valoir la peine, Antirouille métropolitain ». Je suis allée sur antirouille.com, j'ai lu, j'ai comparé et je me suis décidée. En quelques clics, j'avais mon rendez-vous. La gérante a répondu à toutes mes questions pendant que mon auto se faisait traiter. On a dû arrêter notre conversation quand on m'a remis les clés. En se quittant, on s'est dit « à l'année prochaine ».
Le rabais estival de 20 $ d'Antirouille métropolitain se termine bientôt. Grouille avant que ça rouille.
Votre aventure estivale en plein cœur de Québec. Chez Arbrasca Chauveau, grimper dans les arbres, traverser des parcours aériens et survoler la rivière Saint-Charles en tyrolienne. Des sensations fortes et du plaisir pour tous. Ouvert 7 jours sur 7, réservé sur arbrasca.com.
Cet été, prenez le contrôle avec Enviro-Confort. Que ce soit pour la qualité de ses thermopompes ou l'excellence de son service après-vente, Enviro-Confort est votre référence pour rester au frais tout l'été. Ne laissez pas la chaleur ralentir votre quotidien. Faites confiance à une équipe reconnue pour son expertise, son service et des solutions adaptées à vos besoins. Cet été, choisissez le confort en toute confiance. Prenez le contrôle avec Enviro-Confort. Enviro-Confort.com.
Faire affaire avec du proprio, ça veut pas dire vendre tout seul. Vous êtes bien accompagné à chaque étape par des gens qui comprennent votre réalité de Québécois, Québécoise, Sherbrookois, Sherbrookoise, Drummondvillois, Drummondvilloise, Grandbien, Grandbienne, Trifluvien, Trifluvienne. Pour ceux que ça faut, ben c'est les gens de Trois-Rivières. Pour vous épauler dans la vente de votre propriété, il n'y a rien comme les coachs en immobilier du proprio qui savent comment ça se vend ici. Du proprio, vendez bien accompagné.
Du 9 au 6 août, ne manquez pas la plus grosse porte ouverte de l'été chez Escalvr Beaumont. Pendant 4 jours seulement, profitez de prix coûtants du manufacturier sur une vaste sélection de roulottes, fifth wheels, boîtes campeurs et roulottes pliantes. Obtenez un financement à partir de 5,99% ou choisissez l'option ne payez rien avant 3 mois. Financement disponible jusqu'à 20 ans, directement sur place. Samedi et dimanche, amenez toute la famille, jeux gonflables et hot dogs gratuits. Escalvr, au 12 rue de la Chute à Beaumont. Votre prochaine aventure commence ici.
The Tea Party est de retour à Trois-Rivières.
Le samedi 22 août, à l'amphithéâtre Cogeco, replongez dans l'univers du mythique groupe rock canadien The Tea Party et revivez 35 ans de grands succès.
Une grande soirée rock avec le groupe Rouge Pompier en première partie.
Billets en vente au amphithéâtrecogeco.com.
Boulevard 102.1.
Gravel. Dans le retour.
Peut-être seulement un malade mental.
Gravel dans le retour.
Mais toujours dans le rythme.
Avec Denis, Véro et Audrey.
Il n'y a pas d'attrape le rythme, c'était automatique.
Il n'y a rien de plus fatigant dans la vie que quelqu'un qui nous plogue ses amis connus. Puis j'en parlais justement avec mon bon ami personnel, Kevin Owens, de la WWE dans les dernières minutes. 17h33.
Mais t'étais tellement content là, quand tu as plogué que vous connaissiez début 2000.
Ah ouais, mais écoute, je voulais juste vous montrer que je vous bullshitais pas quand je vous disais qu'on se voyait à tous les vendredis soirs au centre Monseigneur Marco. Il nous a même parlé. Il nous a même parlé des chroniques sous la tente de Sonny Warcloud.
Et on n'avait pas demandé de preuves.
Non, non, mais des fois, vous êtes sceptiques. Hein? Vous pensez que je beurre épais.
T'es vraiment un petit gars.
Quand je disais, tu sais, oh, angine de poitrine, ça va devenir populaire. Puis là, hein, je me faisais faire les gros yeux par les demoiselles du retour. Puis oh, les pleines. Mais qu'est-ce que tu racontes, vieux fou? Ben non, mais le vieux fou, des fois, il n'est pas complètement fou. Mmh. J'en parlais justement avec mon autre ami personnel, là, Robert Lepage.
Oui,
évidemment.
Il demande des nouvelles en passant.
Ah oui. C'est bien. Il fait longtemps, j'en ai pas eu. Justement. D'ailleurs, là-dessus. On a parlé un peu plus tôt dans l'actualité des numéros de style 911, 811 qui sont de moins en moins accessibles. En fait, c'est le 811 qui est au cœur de la discussion. Ouais. Là. Puis pour ceux qui l'ont essayé, effectivement, quand tu as besoin d'un conseil rapidement, il y a bien du monde.
Pour parler à une infirmière.
Ben, c'est ça. Il y a bien du monde qui raccroche puis qui s'en vont pacter les urgences, ce qui n'est pas nécessairement mieux. Mais
ou qui attendent que leur situation se dégrade.
Oui.
Oui, puis même à l'urgence, c'est maintenant une personne sur 10 qui rebrousse ce chemin sans rencontrer qui que ce soit, ce qui est malheureux. Comment ça va le 3-1-1, Véro?
Ça, j'ai hâte de voir. Moi, je suis une grande utilisatrice du 3-1.
Le 3-1 sert à quoi? Le
3-1, c'est au niveau municipal. Fait que quand il y a une insatisfaction, un problème, quelque chose qui n'est pas... C'est pas le 9-1, c'est pas les policiers, c'est vraiment les services municipaux. Bien, il y a soit au téléphone, le 3-1, ou encore, ils ont un formulaire en ligne, puis quand il y a quelque chose qui ne marche pas... Gros nid de poule, déneigement qui n'est pas fait, ramassage des ordures qui n'est pas à votre goût... un parc où il y a quelque chose de brisé, n'importe quoi.
J'aimerais stouler mon voisin qui a mis une bûche dans son foyer.
Non, ça je pense pas que ça fasse le 3-1.
Il y a quelqu'un dans ma rue qui a un chat, puis je pense qu'il est pas enregistré à la ville.
Quoi qu'ils doivent en recevoir?
Ben c'est sûr!
J'aimerais
c'est
tellement
ceux
qui nous fassent le palmarès des pires niaiseries qu'ils reçoivent au 3-1.
Là, toi, t'as fait une plainte, là? T'as un voisin qui t'énerve?
Non, ça n'a pas de rapport avec un voisin qui m'énerve, mais vous allez peut-être comprendre ma situation. Moi, je demeure dans un secteur qui est très urbain.
Je pense que mes voisins fument de la drogue.
Non, mais Véro, ça vient d'habituer des plaintes 3-1.
Oui,
là.
Vraiment, j'en ai fait une. Ils ont changé la rue chez nous, puis ils n'ont pas mis de no parking, ce qui faisait que les gens se stationnaient dans une voie, puis c'était impossible de passer dans ma rue.
T'es-tu Karen? T'es-tu une Karen du 3-1?
Denis, ça, c'est pas... Stine, tu auras un problème dans ta rue, tu serais le premier à appeler pour avoir une solution. Là.
Non, j'aime pas ça, le téléphone.
Laisse un courriel dedans.
Je ferais appeler quelqu'un d'autre.
J'utilise le formulaire.
Je serais Audrey.
C'est ça, il arrivera déjà et il nous touchera.
Je demande dans un secteur qui est très urbain, fait que je suis habituée qu'il y ait du bruit. Il y a des autobus qui passent sur ma rue, il y a des camions qui passent sur ma rue. Je suis à proximité et d'une centrale de pompiers et d'une centrale de police. Je reste sur le Bourgneuf-Austin. Fait que tu sais, moi, le silence, je connais pas ça et je vis très bien avec ça. Ça ne me dérange pas, ça ne m'empêche pas de dormir.
Mais?
4 heures ce matin, sur un terrain commercial à proximité de chez nous. C'est comme si un grader avait travaillé de 4h30 à 6h30 sans arrêt.
Oh!
Sans arrêt. Et
pas
un petit bruit.
Plus,
là, c'est ça, parce que je n'ai parlé un peu autour de moi. Je fais « là, de 4h à 6h30, j'ai pas dormi. Impossible de fermer les fenêtres ou quoi que ce soit. »
Mais là,
c'était
t'en
un vacarme.
T'en as parlé autour de toi. Genre, tes voisins de palier sont tous vieux pis sourds.
Oh, franchement, non.
Eux autres n'ont rien entendu.
Non, mais tu sais, la réaction de tout le monde, ça a été « Oui, mais il y a des règles. Mm. » T'as 3 quarts de journée, si on veut. Là, t'as le jour, t'as le soir et t'as la nuit. Puis en principe, de nuit, de 23h à 7h, tout ce qui est bruit excessif, t'es pas censé en avoir. Mais là, mon questionnement, c'est quoi faire avec ça? Tu sais, j'aurais pas appelé le 911 pour dire il y a un camion qui fait du bruit puis qui empêche de dormir.
Il y en a qui l'auraient fait.
Oui, mais moi, je ferais pas ça. Donc, ce que j'ai choisi de faire, c'est d'écrire au 3-1 pour poser des questions sur la situation que j'ai vécue.
Mais là, tu sais-tu c'était quoi?
Je me suis levée, j'ai vu qu'il y avait une espèce de gros camion qui a travaillé pendant 2h30 de temps.
Ouais, c'est
ce qu'il a fait, elle sait pas. Oui, mais hey, à 4 heures du matin, 4 heures flush du matin jusqu'à 6h30.
Bien, je te l'avais déjà conté. Nous autres, ça nous était arrivé quand tu faisais des travaux à côté de la maison à Deschambault. Puis ça arrivait souvent qu'autour de 4 heures, ils décidaient qu'ils débarquaient des gars malgré les interdictions.
Absolument.
C'est honnêtement, c'est fâchant. Là. Je comprends qu'il y en a qui veulent commencer leur journée plus tôt, finir plus tôt, là, mais tu sais...
Fait que là, mon questionnement, c'est quoi la réglementation? Puis c'est quoi mes recours si ça recommence? C'est les questions que j'ai posées au 3-1. J'ai très hâte de voir si je vais recevoir une réponse. Habituellement, là...
C'est quoi? C'est 6h, 6h30 normalement que ça...
C'est 7h.
7h.
7h. Pour vraiment, tu sais, ce qui sort de l'ordinaire...
Je te confirme que personne ne fait règle.
Non, mais tu sais, il y a des affaires qui se tolèrent avant 7h malgré tout, puis il y a des affaires que ça n'a juste pas de maudit rapport. Fait que là, je veux savoir, est-ce que... Qui j'aurais dû appeler à ce moment-là, puisque le 3-1, ça ferme à genre 8 heures le soir. Fait que c'est pas eux autres qui vont m'aider. Puis je me vois mal appeler au 911 en disant là, il se passe quelque chose dans le coin de chez nous, puis ça semble pas legit non plus.
Nous autres, on a appelé carrément à la ville, là.
Puis.
Mais, ben écoute.
Puis eux autres, ils étaient récurrents, là.
Oui, c'est ça, c'était même. Fait que, tu sais, il y avait des avertissements qui avaient comme été donnés. Là, l'affaire, c'est que. T'sais, là, nous autres, c'était plus personnel vu que c'était à côté de la maison. Fait que ça avait fini avec des menaces de mise en demeure. Là, c'était un peu le bordel.
Le fun, toi,
ah,
chose.
C'était vraiment de la merde. Mais normalement, la ville est censée contrôler ses contracteurs. Là,
fait que là, j'ai hâte de voir si j'aurai une réponse parce qu'on me dit ben, que 3-1, des fois, le suivi n'est pas toujours là, à moins qu'ils doivent faire de quoi, mettre de quoi en application. Moi, je vous confirme que l'interdiction de stationnement est arrivée quand même assez vite dans ma rue parce que c'était une aberration. Et j'avais envoyé photo à l'appui de toutes
mais
les chars qui étaient parquées dans la voie.
J'allais te dire, tu sais, mettons, si ça se reproduit des situations comme cette nuit, c'est plate, mais lève-toi et prends une photo. tu sais, pour
notre vidéo avec le son.
Oui, mais ce serait un métier pour montrer que c'est en action, mettons. Là.
C'est parce que, tu sais, quand je me suis réveillée à 4h, je suis comme, OK, ça va durer 5 minutes, c'est une livraison, c'est pas plus grave que ça.
Tu sais, quelqu'un qui nous écrit mon voisin a décidé de commencer à couper du bois à la scie à chaîne à 5h30 du matin.
Ben
tu sais, du monde qui font refaire le toiture, là, ça commence à faire toc-toc-toc des fois, il est 6h moins quart, 6h, 6h et quart du matin, là. Les rénaux extérieurs aussi. Tu sais, nous autres, il y en a eu cet été dans notre rue. Là, des fois, qu'à 5h30 du matin, c'était pas mal commencé. Là.
C'est un peu intense. C'est à la limite. Là, je veux dire, mettons que c'est 6h30. Je me dis, oh, c'est une demi-heure d'avance. Je vais-tu vraiment faire chier pour une demi-heure d'avance?
4h du matin, je l'écrirai.
Mais sérieux.
Tu sais, il y a quelqu'un qui nous dit, en télécom, quand on fait des coupures de nuit sur la fibre optique, on n'a pas le choix de travailler de nuit. Et oui, les camions sont terriblement bruyants car les génératrices roulent toute la nuit.
Oui, ça, c'est déjà arrivé dans ma rue. Puis ça, tu sais quoi? Je le comprends.
C'est pas
une
ça,
génératrice,
là, que
c'est un bruit blanc. Là. Tu finis par t'endormir avec le bruit du camion génératrice. Je le sais, ils ont fait des travaux dans ma rue aussi cette année. Là, c'est autre chose. Là. C'est des ongles sur un tableau pendant 2h30 de temps.
À ce point-là.
Moi, j'aurais dit, je prends une vidéo. Non, non, c'était vraiment intense. Pas le fun. Fait que ça vous est-tu déjà arrivé? Vous faites quoi, vous autres, dans ce temps-là?
T'es-tu allé voir... moi, je pense qu'il y a beaucoup d'affaires maintenant, ces réseaux sociaux. Là. Spotted, Le Bourgneuf, là. Il y a sûrement du monde. T'es-tu allé voir?
Non.
Oui, mais ça ne changera rien. Là. C'est dans le sens que Jacques qui opère la machine à 4h30, il n'y en a rien à foutre que tu l'aies outé sur Spotted.
Il est peut-être sur Spotted, Le Bourgneuf, puis il va peut-être t'envoyer chier, puis tu vas le bloquer. Pis...
Ils sont assez relax, les gens, sur Spotted, Le Bourgneuf, en général.
Ouais, c'est pas le secteur le plus... Va sur Spotted Vanier. Ça, là, c'est divertissant.
Spotted Vanier, c'est plus éveillé un peu.
Il y a vraiment de quoi là-dessus.
Spotted Vanier ou Spotted Val-Bélair, c'est lequel votre préf?
Ben, c'est différent, ça dépend ce que tu cherches.
Pas les mêmes enjeux.
Et en passant, toutes nos excuses aux gens de Val-Bélair, là, vous avez été nombreux à vous plaindre. C'était la journée internationale du VTT hier, on ne l'a pas souligné.
On l'a vraiment oublié, c'était
je
le 4 août.
Je sais que vous autres, vous ne l'avez pas oublié.
Mais moi, j'y ai pensé trop tard, je m'en voulais vraiment, pour vrai. Donc, mes sincères excuses, c'était ma job.
On s'ennuie des trois roues, gang, hein? On va se le dire, là. On est rien qu'entre nous autres, là.
C'est ma joke préférée, on dirait que j'attends ça chaque année.
Hey, il est 17h42, Véro.
Il y a une sortie streaming aujourd'hui que je tiens à souligner. Avez-vous déjà regardé Ted Lasso sur Apple TV?
Non.
Ça a été un des plus gros succès de Apple TV.
On l'a vu à la finale du Mondial.
Oui, il s'est promené avec sa moustache pour présenter Justin Bieber, à mon grand désespoir. Mais quand la série est sortie en 2020, ça a été un raz-de-marée. Ted Lasso, c'est un personnage qui est joué et qui a été créé par Jason Sudeikis. C'est un gars qui est un entraîneur de football américain d'école secondaire et qui se fait engager par la propriétaire d'une équipe de football anglais, donc du soccer. Et elle, son objectif est pur et simple. Il ne saura pas comment faire. Il va scraper l'équipe. Et l'équipe, c'est l'affaire la plus précieuse que mon ex-mari possédait. Fait que c'est un peu une vengeance. Et finalement, ça se revire de bord. Et c'est vraiment une feel-good série, un antidépresseur naturel parce que les personnages sont... autant attachants qu'ils peuvent être cinglants. La musique qui est bonne, c'est Marcus Mumford qui se charge de la musique de Mumford & Sons. Puis ça a été un gigantesque succès au fil des années. Puis en 2023, bien, on annonce la fin de Ted Lasso. La conclusion est parfaite, un peu douce amère, mais tu sais, on avait fait le tour.
C'était fini.
C'était fini. Mais tu sais, quand tu fais plus d'argent ou quand, je sais pas, tu décides de faire une nouvelle saison.
Ben
donc, aujourd'hui, nouvelle saison de Ted Lasso qui est maintenant disponible sur Apple TV. Cette fois-ci, il revient à Richmond, qui était la ville où il coachait une équipe de soccer. Et cette fois-ci, il coachera une équipe de soccer féminine. Les critiques ont l'air correctes, mais je pense qu'il y a tellement un préjugé favorable envers Ted Lasso.
Ouais.
C'est pas dithyrambique, là. C'est pas enfin le grand retour. Puis je sais même pas si j'ai le goût de la regarder.
On a des bons et des moins bons exemples de séries qui étaient terminées puis qu'on a relancées. Tu sais, je pense à Dexter. Tout le monde voulait que ça reparte. Puis finalement, ça a floppé.
C'est très
on
moyen.
Va se le dire.
L'as-tu regardé, toi?
Même pas. Moi, à partir du moment où je vois qu'autour de moi, ça réagit pas ou que les critiques sont pas bonnes, non, j'ai de moins en moins de temps là, pour en regarder des séries. Fait que j'essaye de m'arranger pour que mon investissement rapporte. Fait que je suis en train... Tu sais, je vous ai dit souvent, je suis un gamer cheap en retard. J'achète mes jeux à rabais quand je suis sûr qu'ils sont bons, qu'ils n'ont plus de bugs, que tout le monde a dit que c'est un 10 sur 10. Je pense que je suis rendu un regardeur de séries en retard aussi. Là.
Les X-Files, quand ils sont revenus, il Ils ont fait quelques épisodes précis. Là. Moi, j'ai pas détesté ça, mais il y a eu zéro buzz autour.
Ben non, c'est ça. Des fois, tu reviens trop tard. Des fois, tu reviens, c'est pas juste le bon moment. T'sais, regarde le film Masters of the Universe que tout le monde a apprécié. Les gens qui
les
en
ont... Les quatre personnes qui l'ont vu ont adoré
ça. Ah non, non, c'est Amazon Prime. Là, il est numéro un. Ils sont en train de faire leurs frais. Là.
On nous parle de Heroes aussi.
Heroes n'aurait pas
retour
dû revenir.
Ouais, ouais, ouais.
C'était
c'est vrai.
Les premières saisons étaient très bonnes. Ils se sont perdus puis ils avaient fait un retour. Puis effectivement, ils n'auraient pas dû revenir.
C'est rare parce que, tu sais, au fur et à mesure qu'une série est terminée, elle devient de plus en plus culte, elle devient de plus en plus mythique. Comment tu fais pour être à la hauteur des attentes quand tu reviens? Mettons que Seinfeld annonce qu'il relance la série. C'est impossible d'être à hauteur. The Office qui reviendrait demain matin, non. Tu ne serais pas capable de faire quelque chose avec ça. Puis c'est pareil pour les séries dramatiques. Hey, il est 6h moins quart. On va se lancer dans les grandes questions philosophiques. Vous autres, j'imagine que ça vous arrive aussi dans le milieu de la nuit de vous réveiller, puis le hamster se met à rouler, puis là, vous vous posez des questions, vous n'avez pas les réponses, puis là, vous tournez dans votre tête, mais vous tournez dans le vide un peu, là.
Ouais.
Ils appellent ça le sunset anxiety, l'anxiété du coucher de soleil. C'est une façon de dire, puis c'est un phénomène qui est expliqué scientifiquement, puis je vais vous donner la raison.
Je pensais même pas que ça avait un nom, mais je pensais que c'était comme t'arrives pas à dormir.
Il y a un nom pour tout, Audrey.
Il y a un nom pour tout à cette heure, mais il y a une explication scientifique, et moi j'aime apprendre des choses, fait que j'essaye de vous apprendre des choses aussi. Quand moi j'apprends quelque chose, j'essaye de le partager à cette heure. Je le garde pas pour moi. À gang, on va tous devenir plus intelligents, un petit pas à la fois. Le sunset anxiety, ça c'est quand t'arrives pas à dormir. D'ailleurs, la cause d'insomnie numéro un au monde, l'anxiété. Pourquoi on fait plus d'anxiété la nuit que le jour? Vous êtes-vous déjà posé la question?
Ben, c'est parce que tu n'as plus rien pour te distraire. Je veux dire, il n'y a pas de bruit extérieur, il n'y a rien pour que ton cerveau soit occupé, j'imagine.
En soi, c'est le suspect numéro un, le silence. Le fait que tu n'es plus dérangé par rien, tu n'as plus de notification, tu n'as plus de job, tu n'as plus rien à faire, tu n'es pas stimulé, effectivement. Puis les observateurs qui parlent du phénomène disaient un peu la même chose. Je crois que nous avons tous connu l'expérience de ruminer en boucle durant la nuit. Puis dès qu'on se lève le matin, on repense à ça, on se dit « Oui, mais pourquoi j'ai faux-buzzé là-dessus pendant 45 minutes? »
Pourquoi j'ai gâché mon sommeil?
C'est comme irrationnel.
On est bien niaiseux. Les spécialistes du sommeil sont formels. En passant, quand ça vous arrive, faut pas rester dans le lit. Faut se lever puis faire quelque chose.
C'est drôle, je me demandais ça. Parce que ce temps-ci, j'ai la misère à dormir. Là. Puis je me demandais s'il fallait justement que tu te forces à essayer de changer de position puis de rouler jusqu'à ce que tu dormes.
La place où tu dors, fait que ça devient la place où tu dors pas.
T'as tout compris. T'as tout compris. Faut que le lit redevienne associé au sommeil. Fait que quand tu dors plus, la meilleure chose que t'as à faire, c'est de te lever. Moi, ces temps-ci, je suis revenu sur mon vieil horaire.
Non, ton horaire de matin?
Je me réveille de façon systématique et instantanée à 3h30 du matin.
Arrête-toi!
Puis je suis plus capable. Tu sais, je me couche à 1h du matin.
Fait que tu te lèves.
3h30, je suis réveillé. Non, puis je l'essaye à soir. Là, je me lève.
C'est quoi? C'est ça, je me demande. Je me lève.
Tu vas sur le divan, tu vas lire, tu vas n'importe où sauf ta chambre. Là.
Exact. Tu fais juste, au pire, là, pas obligé d'être long. Hein. Tu vas à la toilette, tu reviens. T'as pas besoin d'aller prendre une marche de 45 minutes. Là.
Tu coupes ta pensée.
Exact. Faut que tu coupes le cercle vicieux, le cycle, effectivement. Quand l'anxiété survient en fin de journée, puis l'explication scientifique, elle est là, c'est le taux de cortisol.
Oh mon Dieu, le cortisol.
Qu'on génère. C'est l'hormone du stress. Ça, là, ça diminue au fur et à mesure que la lumière du jour descend. Le corps commence à se détendre. Mais l'esprit, lui, il n'a pas encore reçu le message. Parce que le cortisol ne fonctionne pas de la même façon. Fait que oui, ton corps se détend. Mais l'esprit, lui, là, il est encore en mode surchauffe. Fait que quand vous allez vous coucher de même, puis c'est pour ça qu'on dit changer votre routine d'avant-sommeil. Tu sais, la surstimulation avec le téléphone, puis le scroller ou jouer à un jeu vidéo ben énervé, on dit de faire ça avec nos enfants, mais à l'âge adulte, c'est la même chose. Tu sais, il faut que la période du sommeil, ça devienne vraiment calme pour que ton esprit reçoive aussi le message de dire « Hey, moi aussi, il faut que je me tranquillise. Moi aussi, il faut que je me calme puis que je me mette dans une zone où, à partir du moment où tu dors, ben ça te fait du bien. » Puis moi, c'est une des raisons pour laquelle, maintenant, avec ma machine de l'apnée du sommeil, je m'endors plus rapidement. Parce qu'il y a comme un signal associé au fait que je mets la machine, dodo.
Ça va ensemble.
Ça va ensemble.
Côté Pavlov. Mmh.
Ben oui, c'est ça. C'est niaiseux de même. C'est super niaiseux, mais super efficace.
C'est une routine, une association.
À partir du moment où j'ai le masque d'en face, c'est fini. Je fais plus de scrolling, je fais plus rien. C'est dodo. Ciao, bye. Fait que ça vous prend toutes des machines d'apnée, c'est ça que je
veux dire. Ouais, c'est ça, finalement,
ouais, c'est
qu'on
ça.
Retient,
en
là.
Gros, c'est
non,
ça.
Je vais essayer de juste respirer la nuit, ça devrait quand même
mais c'est
aller.
Parce que je suis en train de me dire, à quelque part, ça, c'est, même en essayant de te créer une routine, c'est pas nécessairement facile.
Ben non.
Tu sais, dans le sens que... Puis moi, c'est même pas le téléphone, là, c'est vraiment juste de... Tu fais quoi, mettons, pour ralentir ta fin de journée? Parce que moi, j'essaie d'éviter les écrans, fait que c'est pas non plus d'écouter un film ou une série.
Non, mais ça peut être de lire.
Ok,
ça peut être
mettons,
de faire quelque
ouais,
chose
ça, c'est
plus tactile, là, je sais pas.
Tu sais, moi, je me rends compte.
Pas faire un casse-tête.
Plus hein. bien, tu sais.
Hey, moi, ça fait trois semaines là, qu'à 3h30 du matin, je me réveille tout le temps, puis je scrappe pour une heure. Puis je fais rien que virer des problèmes de stress, puis des problèmes d'angoisse, puis tout, puis tout. Je peux-tu te garantir que cette nuit, je me lève?
Ben, tu me diras ce que t'as fait demain, je suis curieuse.
Puis après ça, ben, je vais faire le truc qu'Ariane nous a donné hier. Là. Je vais lever les bras dans les airs, puis les jambes dans les airs.
Je n'ai même pas essayé encore.
Il y a des chefs, d'ailleurs, qui ont été sorti hier par l'organisme Jeunesse J'écoute, tu sais, qui vient en aide aux jeunes. C'est un service d'aide qui se fait par téléphone, par texto maintenant. Ils disent qu'au courant de la première moitié de 2026, c'est une hausse de 24 % des conversations par texto durant la nuit.
Et crème, hein?
Oui. Fait que, tu sais, quand on parle de ce dont Denis a parlé, puis essentiellement, tu sais, je voyais des textes passer, c'est de l'anxiété qui les font contacter. Tu sais, les raisons vont être diverses, mais le point commun, ça peut être une anxiété par rapport à une relation amoureuse, une relation avec des amis, une situation scolaire, une situation avec des parents. Fait que ça ne... Tu sais, avant, il y avait des heures qui allaient avec ces lignes-là, même si c'était des heures 24 heures, mais tu sais, c'était pas subtil d'appeler au milieu de la nuit, tandis que là, texter au milieu de la nuit... La bonne nouvelle, c'est qu'ils prennent l'initiative de le faire, mais ce que l'organisme racontait, c'est que ils ont besoin de plus de gens qui vont être disponibles la nuit, justement. C'est un appel ou un texto aux 90 secondes qu'ils reçoivent pendant la période nocturne. C'est quand même assez intense. Puis selon les provinces, on dit que c'est beaucoup plus élevé, par exemple, dans le secteur de Vancouver. Mais eux autres, là, les conversations entre 20h et 8h ont augmenté de 46 % par rapport à la même période de l'année passée. C'est 2817 échanges.
C'est une bonne nouvelle, par exemple. Ça veut dire que les gens, au moins,
exact,
ils
s'en servent, oui.
Puis en même temps, ben, j'ai l'impression que chez les adultes, on a un peu la même dynamique aussi là, à 2h du matin, là, quand on vire dans nos angoisses, puis là, tu prends le téléphone, puis là, t'envoies un message.
Tu vois quelqu'un qui a le point vert à côté.
Ouais,
là?
Toi, t'es-tu levé, toi?
Mais moi, tu vois, je vais avoir le réflexe de vouloir régler mes affaires.
Oh boy!
Ah non, pas régler. Non, attends une minute.
Okay. Pas régler ses comptes.
Tu m'écriras jamais à 2h du matin pour régler des affaires de job. Là,
tu charcutes des gens? Ça allait être le yak.
Non, mais tu sais, si, mettons, je sais pas, il y a un message que j'ai oublié d'envoyer ou il y a quelque chose qui me tanne, je vais me prendre des notes. Je vais essayer de mettre sur papier ce qu'il faut que je règle pour le sortir de ma tête. Ça fait-tu du sens?
Ouais.
Ouais, parce qu'en même temps, rien qu'à virer en rond, tu régleras rien. Ça prend du recul un peu.
L'autre truc à essayer, c'est celui que Isabelle, je crois, nous a texté. Il ne faut pas regarder l'heure car ça réveille ton cerveau. Quand tu regardes l'heure, ça programme ton cerveau pour les nuits suivantes. Ah. Elle dit, ça fait des années que je regarde plus l'heure et ça fonctionne. Quand tu te réveilles, tu te rendors tout de suite quand tu ne regardes plus l'heure.
OK. OK.
On va y prendre les trucs, hein?
Ouais, moi, j'ai un cadran qui est quand même assez dur à contourner.
Oui,
là,
mais
parce
mets
que...
un oreiller dessus, mets un coussin dessus, une boîte de Kleenex.
Non, c'est parce que
bord,
moi, j'étais rendu, avant d'avoir ma machine, c'était rendu que je dormais beaucoup, puis je voulais avoir l'heure tout le temps quand je me réveille.
Mais là, enlève-le.
Moi, l'essayer.
Elle dit que c'est recommandé par les spécialistes du sommeil et de l'insomnie.
D'accord.
Checker plus l'heure.
Mais c'est vrai que ça marche.
Fait que si ça marche demain, ça se peut qu'à 14h, vous commenciez le show tout seul.
Parce que tu vas dormir encore?
Absolument, mais je vais avoir une bonne raison.
Tu peux mettre une alarme.
Ben non, j'ai pas l'heure.
Tout le monde.
Non, c'est pas.
T'as un sel.
C'est pas.
Le rock'n'roll a vu le jour dans les années 50. De l'invasion britannique en passant par le prog, le hard rock, le grunge et le rock des années 2000. Du vinyle au streaming.
Yeah!
Voici l'histoire du rock dans Gravel dans le retour.
Dans l'histoire de la musique, un 5 août 2021, Tony Bennett et Lady Gaga jouent leur deuxième concert sold out au Radio City Music Hall à New York. Ce sera la dernière performance à vie de Tony Bennett. Une semaine plus tard, le chanteur de 95 ans, diagnostiqué de la maladie d'Alzheimer, prend sa retraite et annonce qu'il se retire du monde de la chanson.
Dans les shows que je regrette de ne pas avoir vu, ça en fait partie. C'était écœurant ce que ça a donné.
Tony Bennett qui a fait plusieurs albums de duo. Absolument. Avec des personnes connues. Puis souvent, ben, c'est une façon comme une autre de, comment dire, rester au goût du jour.
Ouais.
Tu sais, tu fais des duos avec John Mayer, mm-hmm. avec Lady Gaga, avec Amy Winehouse, avec Michael Bublé, avec Kiddy Lang.
Ça fait que des plus jeunes t'écoutent et apprennent à te connaître.
Exactement. Un 5 août 2009, Steven Tyler, chanteur d'Aerosmith, prend toute une fouille pendant un spectacle. Ça se passe au Dakota du Sud pendant le Sturgis Motorcycle Rally. Le chanteur, à l'époque âgé de 61 ans, tombe de scène sur des fans. Il se blesse au cou et à l'épaule. 30 minutes après l'accident, le guitariste Joe Perry vient annoncer que le show est cancellé et que Steven Tyler a été évacué et acheminé à l'hôpital par hélicoptère. On tombe dans la catégorie non, mais y en a-tu des malades? Un 5 août 2009, un homme de 53 ans qui affirme être secrètement fiancé avec Miley Cyrus est accusé d'avoir suivi la chanteuse et de l'avoir harcelé. Mark McLeod, qui a tenté de contacter l'actrice Dana Montana sur un set de film en Georgie. McLeod qui affirmait à qui veut l'entendre qu'il avait rencontré Miley Cyrus 18 mois auparavant et qu'elle avait accepté sa proposition de mariage. Il a dit à la police, entre autres, que le chanteur country Billy Ray Cyrus, le père de Miley Cyrus, avait approuvé lui-même cette union et que, attention, Miley Cyrus lui envoyait des messages secrets à travers le show de Anna Montana à la télévision. Un 5 août 2005, se réunissent dans une pièce Paul McCartney, Noel Gallagher, Robert Downey Jr. et Keith Richards, ainsi que Lou Reed. Et le but, c'est de brainstormer, à savoir quels ont été les moments culturels les plus importants de l'histoire moderne.
Quel mix!
Et au grand numéro 1, on a décidé que c'était Like a Rolling Stone de Bob Dylan, qui était le moment culturel le plus important. Au numéro 2, t'avais Heartbreak Hotel de Elvis Presley en 1965. Et on faisait le tour de tout, là. On disait musique, film et artistes qui ont changé le monde. Bob Dylan numéro 1, Elvis Presley numéro 2. Now you don't talk so loud. Dans la catégorie légende décédée beaucoup trop tôt, un 5 août 1992, à l'âge de 38 ans, le batteur de la formation Toto, le fameux Jeff Porcaro, décède d'une attaque cardiaque. Un gars qui a joué en plus de son groupe avec Sonny and Cher, Roger Waters, Eric Clapton, Paul McCartney, Steely Dan, Paul Simon, entre autres choses. Tout un batteur en passant. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Et c'est l'anniversaire du légendaire Pat Smear, 67 ans, d'abord dans le groupe punk The Germs, un groupe légendaire et mythique, mais après ça, guitariste de soutien de Nirvana en 1993 et 1994. Et vous pouvez voir sa bouille souriante avec les Foo Fighters depuis 1997.
C'était à Toronto hier, hein?
Oui, oui, oui.
The Queens of the Stone Age.
Effectivement, on avait des amis qui étaient dans ce coin-là, des belles images, des beaux vidéos qui circulent du show des Foo Fighters.